Vous êtes sur Europe 1 et comme tous les matins, Mélanie et moi, on va prendre soin de vous. Alors la question du jour, je la rappelle, la pleine conscience, avez-vous déjà testé? Et vous alors Clément Lanoux, bonjour, est-ce que vous avez déjà essayé?
Bonjour tout le monde, et oui, un Français sur 5 souffre de troubles anxieux selon les hautes autorités de la santé. Donc fini les anxiolytiques, souvent place à la méditation, mais je vous propose autre chose. Je vous propose une nouvelle discipline. Je suis le premier à la tester en France et vous allez être mes cobayes si vous voulez bien.
Génial.
Mélanie Julia, vous connaissez le stretching,
oui.
Cette relaxation, cette méditation. Ah ben, je vous propose autre chose, on va faire du stressing. Une petite séance de stress, vraiment.
Alors, voilà.
Fermez les yeux, détendez-vous. Allez, c'est parti. On se pose tranquillement. Voilà, vous pouvez faire l'exercice à la maison. Vous pensez maintenant au travail. Vous pensez à votre collègue. Voilà. Imaginez ce collègue que vous n'aimez pas. Visualisez-le pendant les 15 prochaines années avec son petit bruit de clic-clic là. Voilà. Maintenant, imaginez cette machine à café insupportable.
J'ai cru que c'était mon mari qui ronflait.
Toutes les 3 minutes. Et puis cette imprimante qui n'en finit plus. C'est ce qui vous rappelle le travail. Visualisez ce petit néon qui fonctionne mal aussi, voilà.
Ah mon dieu.
Juste au-dessus de votre bureau. Et puis ce bruit de clavier du collègue qui tape à deux doigts. Voilà. Vous êtes maintenant un petit peu détendu. Alors maintenant, on va se poser des questions encore plus intérieures. Pensez à chez vous.
Oui.
Avez-vous vraiment coupé le gaz avant de partir ce matin? Êtes-vous vraiment sûr de ça? D'ailleurs, votre porte est-elle vraiment fermée à clé? Savez-vous où est votre conjoint à la seconde où je vous parle?
Quel enfer!
Pensez à sa collègue la plus sexy. Et si elle avait besoin de lui? Si elle était avec lui là maintenant, sans vous, pendant que vous travaillez tranquillement? Pensez maintenant à votre enfant. Rajoutez votre enfant, voilà, celui que vous voulez, vous choisissez maintenant. Et puis pensez au jour où il va quitter la maison parce qu'il aimera une femme plus que vous, peut-être. Et que vous serez la numéro 2. Voilà. Imaginez maintenant un appel en masqué, c'est la banque qui vous appelle. Vous venez de vous faire pirater tous vos comptes. Et
j'avoue,
toutes vos économies
viennent
de s'envoler. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et revenir à la réalité. Et puis finalement, on n'est pas si mal, hein, en pleine conscience.
Franchement, c'est mieux. Hein.
C'est mieux, hein, la réalité est parfois mieux. Donc c'était ma première séance de stressing. Maintenant, on va parler méditation et pleine conscience grâce à nos invités.
Merci beaucoup, mon cher Clément, pour ce moment pour ces quelques minutes avec lesquelles vous avez partagé avec nous votre conscience humoristique. C'était très sympa. Allez, maintenant, on respire, on se pose et on va démarrer cet entretien en pleine conscience avec vous, Christine Mirabel-Sarran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et l'auteur du livre « Pratiquer la thérapie de la pleine conscience pas à pas » aux éditions d'UNO. Docteur Mirabel-Sarran, déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est concrètement la pleine conscience? On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est en réalité.
En fait, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il y a plein de définitions, plein d'auteurs, chacun un peu sa définition. Je pense qu'on pourrait dire tout simplement, c'est porter son attention. Alors, son attention, c'est sa concentration, sa conscience. Son attention volontairement, là, maintenant, c'est-à-dire sur le présent. Or, notre cerveau voyage tout le temps entre le passé et le futur, ou le futur et le passé, comme vous voulez. On dit un peu, une métaphore que j'aime beaucoup, c'est comme si notre cerveau est un peu une horloge déréglée, elle avance, ou elle retarde, ou elle ravance, elle retarde. Voilà, donc voilà, le moment présent, la pleine conscience, c'est là maintenant, hop, je tâche que mon horloge soit là, à l'heure pile, à la bonne heure, pendant quelques secondes. Voilà.
Ça sera déjà pas mal.
Ça
est-ce
sera
que
pas mal.
C'est comparable à la méditation? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça, en partie en tout cas?
La méditation est un moyen pour, je dirais, arriver à poser mon attention. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Alors, il y a des méditations, des dizaines de méditations. Donc, c'est là aussi, encore, il y a une confusion. Donc, l'idée, la base hein, traditionnelle, c'est le yoga. Les postures de yoga nous amènent à nous poser et à faire la méditation du yoga. On va dire la base ancestrale, on va dire, sans prendre de biais théorique, idéologique ou spirituel. Donc, la base ancestrale, c'est ça. On a le yoga, on a des postures. Ces postures nous permettent de nous poser. On s'installe après et on peut faire un exercice de concentration ou de méditation qui peut être, on peut regarder un objet. La méditation, elle peut se porter sur plein de choses. Donc, voilà. Et on parle beaucoup de la pleine conscience parce que dans les pratiques de méditation, c'est la pratique, on va dire, la plus étendue et la plus accessible à tous.
Christine, quand on entend parler de pleine conscience, on s'imagine aller à une technique de plus de développement personnel, mais c'est bien plus sérieux que ça. Pour vous, ça rentre vraiment dans le cadre d'une thérapie, une vraie thérapie, en fait, c'est ça?
Oui, en fait, à partir de la méditation de la pleine conscience, on va dire, voilà, l'histoire, on est parti du yoga, puis après, il y a eu des développements, on va dire, plus spirituels, et dans les années 70, on a un médecin américain qui pratiquait pour lui-même de la méditation zen et qui s'est posé la question d'en faire un soin à l'intention des patients qui avaient des douleurs chroniques.
Oui.
Et à partir de là, on a un premier programme thérapeutique dont la méditation est de pleine conscience. Ce type-là de méditation est un pilier. Et à partir de ce programme est arrivé pour nous, psychiatre, psychothérapeute, beaucoup plus tard, au début des années 90, un programme de soins, cette fois-ci à l'orientation d'aide psychologique de soins. Mmh. Hein, l'historicité, sont ces trois étapes-là.
Vous êtes l'une des grandes spécialistes du sujet de la pleine conscience en France. Mmh. Pourquoi vous vous êtes intéressée, vous, à cette pratique de la pleine conscience? Comment c'est venu à vous?
Il n'y a jamais un peu de hasard, on va dire ça comme ça. Bon, moi, je fais du yoga depuis que je suis petite.
Mais j'allais dire, ce n'est pas dans les études de médecine qu'on vous branche là-dessus, non?
Non. Non, et surtout à l'époque où je les ai faites. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je suis une pratiquante de yoga depuis que je suis, je dirais, petite. Mm-hmm. De ce fait, quand j'ai fini ma formation de psychiatrie, j'ai fait mon mémoire de psychiatrie sur l'application et l'utilisation du yoga en psychiatrie en France, où j'ai fait une grande étude nationale pendant un an sur tout le territoire national sur qu'est-ce qu'on faisait du yoga dans les centres de post-cure, dans les consultations, enfin, quelle était l'offre et dans quel cadre. Et puis en 2002, je suis alors présidente de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive et... celui qui est au départ à l'initiative du programme de 1990 dont je vous ai parlé, le premier programme de soins pour la psy, l'anxiété, toutes les formes, on va voir, est venu à Genève en invitant tous les présidents d'associations comme moi pour nous former pendant une semaine à ce programme. Donc, je suis formée en 2002, c'est la première fois qu'il vient en Europe former des présidents d'associations impliqués dans le soin psy. Et à partir de là, voilà, commence l'aventure, puisque à partir de 2008, je propose à des patients déjà suivis, un petit peu compliqués, les programmes sur l'hôpital Sainte-Anne.
Christine, il y a eu un essor, j'ai l'impression, de cette thérapie par la pleine conscience ces dernières années. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'on est à une époque où quand même, ça on a l'impression, on a tous du mal à s'écouter soi-même, à vivre l'instant présent, tout va beaucoup trop vite aujourd'hui?
Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, on est quand même dans un essor où il y a la pression du temps, la pression de la rentabilité, la pression des exigences. Donc, il y a beaucoup de stress et, comme vous savez, beaucoup de burn-out. Burn-out, les gens, c'est une espèce de pression du stress, d'exigence, de rentabilité. Les gens veulent faire bien, puis ils se trouvent dans un écart où ils n'arrivent plus à tenir. Et donc, se sont développés à partir de ces facteurs de stress importants et de ce qu'on appelle le stress chronique, qui est vraiment important depuis 20 ans, ces burn-out et puis bien sûr le reste des souffrances, à quels sont les soins qu'on peut proposer. Donc au départ, classiquement, et ça marche très bien, il y a tous les soins de relaxation. Moi, depuis que j'étais interne, c'est pas hier, mais voilà, on commençait à utiliser la relaxation dans le stress, le burn-out, et qui marche toujours très bien, c'est une très très bonne indication. Et puis, après la relaxation qu'on a proposée, la relaxation de soins qu'on a proposée donc, il y a une trentaine d'années, eh bien on est venu, il y a 20 ans, à la proposition de méditation. De méditation de pleine conscience. Donc, c'est une ouverture. Et à partir de là, il y a plein de programmes. On a eu la méditation de pleine conscience, on va dire, point. Voilà, être pleinement présent du mieux possible. Et donc là, on a beaucoup de personnes qui se sont engouffrées là-dedans. Beaucoup de philosophes, et généralement, essentiellement bouddhistes, pour la grande, grande majorité d'entre eux. Et c'est arrivé dans le programme du soin avec des médecins, je dirais, il y a 20 ans.
Très bien. Vous restez avec nous, docteur, et vous qui nous écoutez, faites de même. On vous initie à la thérapie en pleine conscience ce matin. À qui est-ce destiné, d'ailleurs? Uniquement aux personnes stressées ou anxieuses? Ou bien y a-t-il des bienfaits pour tout un chacun? Pour en savoir plus, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on vous propose ce matin de vous initier à la thérapie en pleine conscience. Et notre guide dans cet apprentissage, c'est toujours le docteur Christine Mirabel-Sarron. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Alors docteur, pour quel type de personnes la pleine conscience est-elle particulièrement recommandée? Ce sont des personnes anxieuses, très émotives? On peut aller jusqu'à dépressives?
Alors, je vous remercie pour votre question. qui est passionnante, je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Si celle n'est pas dans un programme de soins, on va séparer la méditation de pleine conscience qui n'est pas dans un programme de soins de celle qui est dans un programme de soins. Celle qui n'est pas dans un programme de soins, je dirais pour tout le monde, qui peut se sentir stressé, pas stressé, mais par contre attention à des gens qui seraient malades, c'est-à-dire qui souffriraient de dépression, de symptomatologie anxieuse.
Sévère
ou même existante, c'est-à-dire tout simplement qui est active, voilà, c'est ce que je cherchais.
Là, il faut peut-être ne pas oublier les médicaments, quoi, c'est ça que vous voulez dire peut-être.
En tout cas, une prise en charge, donc ces gens-là ont une prise en charge qui peut être que psychologique, d'accord, avec ou sans médicaments. Voilà, dès qu'on a un peu des troubles qui sont existants et qui sont là, présent, non, on ne va pas y aller parce que, bien sûr, j'ai plusieurs retours de patients qui l'ont fait. Hein, je ne parle pas de façon théorique, je parle de façon pratique. Et ça a été plutôt une tendance à se détériorer, à sortir des séances assez mal, avec beaucoup plus de rumination, ayant l'impression de ne pas avoir été dedans. Voilà, donc je dirais, la méditation de pleine conscience, simple, enfin, elle n'est pas simple, mais qui n'est pas dans un programme de soins. Pour tout un chacun qui va bien, oui. Qui veut faire un peu du développement personnel, oui. Qui est un peu stressé, oui, mais pas les autres personnes. Si on rentre dans un programme de soins, il y a de toute façon deux programmes, on va dire, qui sont soignants. Un qui est orienté sur le stress et l'autre qui est centré sur tous les autres soins. Bon, c'est celui que je guide. Donc, bien sûr, celui centré sur le stress est orienté sur le stress. Au départ, il s'est implanté pour le stress en entreprise. C'est-à-dire, on va être orienté très burn-out, stress en entreprise, sentiment de des gens qui peuvent peut-être être coincés, se sentir harcelés, coincés dans des exigences. Donc, on a ce programme très orienté sur la gestion du stress. Maintenant, on a le programme de soins pour des gens qui avaient connu des dépressions, mais qui étaient guéris ou en rémission partielle. Ce ne sont que 8 séances de 2 heures.
Et donc, il y a des études qui ont été menées sur ça, des études scientifiques, je l'entends, pour prouver l'efficacité de la pleine conscience et de ces programmes de soins de pleine conscience sur la gestion de
tout
ça.
Tout à fait. Oui. Il y a de très nombreuses études scientifiques dans les deux programmes de soins, très sérieuses.
Dites-moi, est-ce que ça existe des personnes qui sont naturellement en état de pleine conscience ? Est-ce qu'il y a des personnes, on a l'impression en fait que rien ne les atteint ? Est-ce qu'ils sont en pleine conscience à ce moment-là ?
Non, je pense que rien ne les atteint parce qu'ils ont peut-être pris de la distance par rapport à beaucoup de choses. Mais l'état de pleine conscience, il ne peut être qu'éphémère chez vous comme chez moi, même si j'en pratique tous les jours depuis plus de 20 ans. Il va être à un moment donné très peu de temps, mais ce tout petit moment, je vais l'apprécier pleinement. C'est-à-dire, je vais être complètement dedans à force de m'entraîner.
Et pour que je comprenne bien à quoi ça peut ressembler de la pleine conscience, je crois qu'il y a des exercices que vous proposez. Il y en a un qui s'appelle le balayage corporel ou le body scan. C'est quoi ça, par exemple ?
Alors, on va prendre le balayage corporel, mais on pourrait prendre...
celui que vous voulez.
Voilà, un autre très simple que les auditeurs peuvent s'entraîner chez vous, chez eux. Donc, ça par serait exemple, peut-être... Il y a un exercice où on prend un objet. Alors, ça s'appelle l'exercice du grain de raisin, mais bien évidemment, il peut se faire avec son trousseau de clés, son stylo, son portable, le bouton de sa veste. Si je prends le bouton de ma veste que j'ai sur moi, eh bien, je vais guider pour être en pleine conscience. Je vais orienter mon attention un sens après l'autre. Donc, par exemple, je vais orienter sur le toucher. Je suis en train de toucher avec mes doigts depuis tout à l'heure mon bouton de veste. Donc, je vais être pleinement, le plus possible, mon attention se focaliser sur le toucher sous l'appui de mes doigts.
Mais vous ne pouvez pas parce que je vous parle en même temps. Alors, est-ce que vous y arrivez quand même ?
Justement, de toute façon, même quand j'y arrive, j'ai ma tête qui m'emmène ailleurs. Même si vous me parlez pas, parce que ma tête, là, je faisais le tour de mon bouton en disant, tiens, il est rond. Tiens, il est plus cannelé que ce que je pensais. Tiens, il est plus froid. J'étais en train de me raconter ça tout en l'explorant dans son toucher. Donc, j'ai ma tête qui commente en permanence.
Oui, c'est génial.
Et donc, je commente, donc je m'aperçois que je commente et je dis, bon, allez, stop, arrête de commenter et je reviens au toucher. Et on va faire des allers-retours comme ça pendant les exercices. Et l'exercice de l'objet, d'abord, je vais faire le toucher. On fait les séances dans n'importe quel ordre. Après, je peux faire le bruit en tapotant avec mon ongle sur mon bouton. Je peux faire l'odeur. Bon, bien sûr, je ne vais pas le goûter, va sans dire.
On n'ira pas jusque-là.
On n'ira pas jusque-là. Mais cet exercice, pourquoi j'ai pris celui-là ? D'abord, tout le monde peut le faire chez soi, c'est facile. Et cet exercice est formidable si vous êtes un jour stressé ou si c'est la panique. Vous le faites.
On peut le faire avec sa montre, on peut le faire avec une mèche de cheveux.
Un bout de son écharpe, ses lunettes, la bandoulière de son sac à main sont là dans la main.
Quelques secondes, quelques minutes, quoi.
Moins d'une minute, ça marche. Moins d'une minute, ça marche. Ouais. Et du coup, même si vous êtes une espèce... Alors, avec de l'entraînement, vous l'avez fait 10, 15 fois, moi je vous conseille de le faire tous les jours, il est formidable cet exercice, eh bien vous pouvez ensuite, un moment de panique dans le métro parce que deux personnes se disputent, vous prenez hop le bouton, ou je pense à une personne du groupe, la glissière de son blouson, il a pu hop se recentrer et sortir de l'angoisse qui arrivait parce qu'il avait peur que les gens se battent tout simplement à côté. C'est très efficace, seulement voilà, il faut de l'entraînement. Notre cerveau, il apprend, c'est génial, mais il a besoin de répéter et répéter.
Ce que vous faites à Julia, mais je la sens limite un peu somnolente, là, en écoutant Christine.
Ça me fait du bien.
C'est un peu comme si elle vous hypnotisait, j'ai l'impression.
Je suis bien avec vous, là, votre voix, elle me plaît. Alors justement, merci. Pour illustrer un peu les bienfaits de cette thérapie en pleine conscience, on va prendre en ligne Emmanuel. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez suivi le programme du docteur Mirabel Sarroux. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la pleine conscience? Vous aviez du mal à gérer vos émotions?
Oui, j'avais une tendance, on va dire, à être des fois un peu trop guidé par mes émotions et ne pas avoir suffisamment des fois de distance par rapport à des situations et donc finalement ne pas avoir de réel choix de faire autrement. Soit de me mettre en colère, soit de ne rien dire, et du coup de mal vivre la situation a posteriori.
Et donc Emmanuel, maintenant vous pratiquez des séances de pleine conscience, je ne sais pas à quelle régularité aujourd'hui, qu'est-ce que vous pratiquez par exemple comme exercice?
Alors en moyenne j'essaye de... Alors c'est pas toujours évident hein, parce que c'est... à concilier avec le reste, mais j'essaye d'avoir à peu près 4 à 5 séances par semaine, qui peut être soit... alors souvent, je fais ça en me levant, je prends un peu de temps, ça me prend une demi-heure, ou soit des fois, dans une journée, quand je fasse un événement où je me sens un peu émotionnellement un peu en difficulté, du coup... Je peux faire quelques exercices de pratique qui vont durer peut-être 5-10 minutes. Voilà. Oui. Donc,
Et vous avez l'impression que ça vous a beaucoup aidé? Et si oui, de quelle façon est-ce que vous vous sentez mieux grâce à ces techniques?
Je trouve que ça a éclairé... ça a éclairé ma vie et ma compréhension de ce qui se passait en moi. Et du coup, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert un champ du possible dans des situations que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que, on va dire, par exemple, j'avais tendance à me consommer dans beaucoup de ruminations, dans des interprétations souvent sans réel fondement et surtout sans intérêt. Mmh. Et puis du coup, j'avais tendance à cristalliser ma colère sur certaines personnes, alors que la situation ne se posait pas en ces termes. Mais du coup, en abordant la situation de manière un peu différente, comme si je me décalais par rapport à cette situation-là, je comprenais mieux comment avant je réagissais et ce que ça pouvait me permettre de fonctionner autrement.
Très bien, merci. Merci beaucoup Emmanuel. Ouais. On voit que pour vous, en tout cas, ça a permis effectivement de prendre de la hauteur et on sent les bienfaits que ça vous a apporté. Docteur Mirabel Sarroux, je reviens vers vous. Le cas d'Emmanuel, il est assez frappant, hein. Ça a donné de bons résultats. Et il continue d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça. Après, c'est quelque chose à ancrer dans sa vie quand même, j'ai l'impression.
Oui, comme je disais, on a une phase, puisque les deux programmes de soins sont sur le même format, hein. C'est 8 séances de 2 heures. Donc on va apprendre beaucoup, beaucoup d'outils dans le programme, donc pour tout, on va dire, les souffrances anxieuses, réactionnelles, émotives, tout ça, enfin, ou monsieur, madame, tout le monde, ou même c'est recommandé pour nous, hein, thérapeutes, hein, pour tous les gens en relation de soins, il est recommandé de faire ce programme pour améliorer notre qualité de relation aux autres, d'alliance thérapeutique, c'est même en recommandation, ça a été montré par des études. Donc l'idée, c'est un chemin qui commence, en fait. Les 8 premières séances, c'est le début d'un chemin qui devrait continuer, on va dire, toute notre vie. Mais les bienfaits sont tels que ça ne va pas vraiment être un effort. Bien sûr, comme disait Emmanuel, il faut s'organiser dans son planning. Parce que voilà, on ne fait pas que ça. On travaille, on a une vie, on a des familles.
Ça se case quand même dans l'organisation.
Oui, parce que, par exemple, sur le programme de soins plutôt orienté psychologique qu'a suivi Emmanuel, on apprend au final 20 outils. En 8 séances, on a 20 outils. Mais il y en a qui font une minute, comme ceux que je vous ai expliqués avec le bouton de ma veste. Beaucoup font 5-10 minutes, ce qu'évoquait Emmanuel, c'est quand il a un pic émotionnel, il peut le faire à son bureau, ça ne se voit pas. En fait, les exercices courts, on n'a pas besoin d'audio, d'enregistrement. On les a fait. On peut le faire même en réunion, en séance. Ça ne se voit pas. On ne voit pas que vous êtes en train de faire ça. Et puis, on a des exercices plus longs qui font 20 minutes, les plus longs. Donc, on va avoir un ensemble de possibilités. Effectivement, l'idée est d'arriver à pratiquer 4 fois dans la semaine.
Eh bien, merci beaucoup. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques instants. On découvre ce qu'est exactement la thérapie en pleine conscience aujourd'hui. Comment cela agit sur nous? Comment ça se pratique? Ça s'imbrique dans notre quotidien? Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Merci d'écouter Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser à la thérapie en pleine conscience. Et pour en parler, nous sommes toujours avec le docteur Mirabel Sarron, psychiatre et psychothérapeute. Christine, qu'est-ce que ça développe comme compétence de faire cette thérapie en pleine conscience? Vous parlez, je crois, d'autocompassion. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce terme?
Oui, ça développe plein de compétences d'auto-soin, dont l'autocompassion. La compassion, on a souvent tendance à dire que c'est vers l'autre. C'est-à-dire, j'ai un ami qui est en peine, j'ai une copine qui a des difficultés, j'ai mon voisin qui est en difficulté. On va aller volontairement l'aider.
Ça, c'est l'empathie aussi.
L'empathie, c'est être en connexion avec la souffrance de l'autre. La compassion, on va agir.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire, c'est de l'empathie plus de l'action,
bien sûr.
Donc, la compassion est ce qu'on propose dans ce programme-là, à développer son auto-compassion. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous, sociétalement, culturellement. C'est-à-dire, moi, je veux aussi être mon meilleur ami, ce qu'on n'est pas forcément, hein, parce qu'on est stressé, on est anxieux et autres. Donc, développer aussi cette auto-aide pour moi, donc développer cette auto-compassion, je dois être aussi mon meilleur ami et je dois aussi, comme je le ferais avec mon ami ou un enfant qui est triste, poser la main sur mon épaule, poser la main sur moi et me faire du bien. C'est l'auto-compassion est effectivement une des dimensions que nous allons développer et qui est extrêmement importante pour prendre soin de soi.
Oui, la compassion. Et la gratitude, alors, c'est quoi par rapport à tout ce dispositif? À quoi ça sert?
La gratitude, il y a un exercice que j'adore qui s'appelle les 5 doigts de la gratitude. Eh bien, on va chaque jour, on accroche un doigt comme ça, on accroche nos doigts en crochet, on va les faire sur les 5 doigts. Pense à une situation de la journée où on va remercier. Remercier la nature, remercier le ciel et remercier pour le beau rayon de soleil qu'il y a eu hier après-midi ou par un sourire de quelqu'un dans la rue ou aussi se remercier soi de quelque chose qu'on a fait qui a été difficile, qu'on avait peut-être repoussé. Donc la gratitude, c'est tout ce remerciement à soi, à la nature, aux autres. Et exprimer ces 5 gratitudes par jour, ça fait énormément de bien.
Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, vous avez décrit évidemment le protocole de soins, mais après c'est des outils qu'on peut utiliser au quotidien.
Oui.
En fait, c'est comme un entraînement, on le fait un peu tous les jours et puis on finit par vivre davantage en pleine conscience.
Tout
c'est
à fait, ouais. Exactement. Exactement.
Et ça nécessite, on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel, avec le témoignage d'Emmanuel qui disait, bon, j'ai pas le temps forcément tous les jours, mais j'essaye de me forcer à le faire au moins 4 fois. Ça veut dire que ça demande quand même un peu de volonté, un peu de discipline aussi de s'y mettre.
Oui, il y a la discipline de même si pendant le protocole ou le programme, la majorité des personnes ont des changements extraordinaires, y compris des gens, on n'y pense jamais, qui ont des douleurs chroniques. Ça marche extrêmement bien parce que la souffrance associée à la douleur chute. Et donc les gens, d'un coup, récupèrent de l'autonomie, récupèrent beaucoup de choses. Après, faut continuer.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire cette espèce quand même de discipline
qu'il faut avoir.
Qu'il faut avoir, mais qu'on aurait. Vous faites de la kiné, on vous demande votre kiné aussi d'en faire 3 fois ou 5 fois.
Voilà, quand on en sent les bénéfices, on a envie de le faire, de toute façon, je pense.
C'est ça. Donc il y a des personnes qui arrivent à être automotivées assez facilement. Et du coup, aussi, pour aider les autres, on propose dans tous les 2 protocoles de soins des séances de rappel ou dites de consolidation qu'on va proposer à ceux qui veulent. Hein, c'est libre, il n'y a pas d'obligation pour s'y remettre, se redoper, se remotiver. Voilà. Oui, il faut continuer. Et tout en continuant, l'apprentissage continue. Et ce qui est extraordinaire, je suis très enthousiaste, vous entendez. mais 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, il y a encore des portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de stagnation. C'est-à-dire, ce qui est assez génial, parce que moi, j'ai 20 ans de recul, on découvre encore, on continue à développer ses compétences. Et c'est un chemin qui n'a pas, en tout cas, pensons, 20 ans après, n'a pas de fin.
Alors, on a beaucoup entendu aussi parler du fait de manger en pleine conscience. C'est une chose que vous pratiquez aussi ou pas? Et c'est quoi l'intérêt de le faire ou les bienfaits qu'on peut en attendre?
Moi, je l'ai fait surtout au début des entraînements. Peut-être que je le fais en partie automatiquement, mais on ne peut pas le faire automatiquement. Manger en pleine conscience, ça se fait, il faut le savoir, dans tous les centres qui s'occupent de troubles des conduites alimentaires ou de gestion alimentaire ou nutrition, ou dans les thalassothérapies, un peu orienté les centres de cure, orienté nutrition. C'est un exercice qui est permanent dans tous ces centres-là.
Mais ça veut dire quoi?
Je
donne un exemple. Moi, j'ai un exemple. Julia, chaque année, je sais que les fêtes approchent. Je sais que Julia, elle craque pour les Ferrero Rocher. Si on lui offre souvent une pyramide comme ça, est-ce qu'en la mangeant en pleine conscience, elle ira peut-être pas au bout de la pyramide en un seul soir?
Ça, c'est sûr, parce que manger en pleine conscience, c'est les quatre premières bouchées qu'on vous fait prendre en pleine conscience. Donc, pas un plat entier. Hein, les quatre premières bouchées d'un plat. Donc
juste le haut de la pyramide de Ferrero Rocher.
Voilà, mais le rocher que vous avez, je suppose, vous n'avalez pas tout rond, même si vous le croquez en deux, cette première bouchée, sens par sens.
Ouais.
La vue, l'odorat, le craquant, le bruit que ça fait sous vos dents. C'est-à-dire, et puis on termine par le goût.
Et après, j'ai un peu l'odeur du Ferrero Rocher dans la bouche.
Il y a l'odeur avant de croquer. Il y a l'odeur, peut-être le toucher contre les lèvres. Et quand vous avez exploré les cinq sens, vous allez décider de l'avaler. C'est-à-dire, on sort de l'automatisme. On va être dans une activité à proprement volontaire, délibérée.
Et un vrai moment de plaisir et pas de pulsion, en fait.
Exactement. Ouais, et vous allez découvrir plein de choses comme ça. C'est extraordinaire. Tentez-le, une bouchée en pleine conscience, deux ou trois.
Dès ce soir.
Voilà. Et ça va prendre, et ça va prendre une dimension sensorielle, mais extraordinaire.
Que tu es beau, mon petit rocher. Quand je pense que tu vas t'aminer dans ma bouche.
Vous allez découvrir plein d'aspects du rocher ferreux que vous n'avez pas encore exploré.
Est-ce que la pleine conscience au quotidien, c'est pas aussi tout simplement ralentir un peu, prendre plus de temps de faire les choses sans penser déjà à celle qu'on fera tout à l'heure, demain, dans trois jours? C'est ça aussi?
Ça oblige à ralentir. C'est-à-dire que si je décide de prendre, on ne peut pas vraiment prendre toute sa touche en pleine conscience, mais peut-être je vais être en pleine conscience avec mon savon liquide que j'ai choisi, avec son odeur, avec sa texture. On va mettre comme ça des moments d'arrêt extraordinaires et du coup qui vont quelque part ralentir. Tout compte fait, si on prend une montre, ça ne va pas vraiment ralentir. Mais on va par contre ralentir ce présent en étant pleinement avec.
Est-ce que vous pensez que c'est important, on va terminer par ça rapidement, de transmettre ça peut-être à nos enfants pour ne pas en faire des fous furieux comme nous aujourd'hui, justement?
Je pense que c'est tout à fait essentiel de transmettre à notre entourage, à nos enfants, à nos compagnes ou compagnons de vie. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et petit à petit, en y goûtant, comme ça, de temps en temps, on va avoir bien sûr tendance à le refaire tellement c'est un espace extraordinaire.
Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage passionné sur la pleine conscience. On y voit plus clair et surtout, on a compris que ces vertus sont à la portée de tous. Voilà, cet entretien touche à sa fin. Julia, en ce moment présent, on va passer à quoi alors dans l'émission?
Eh bien, nous allons retrouver nos bienfaitrices avec Sophie Braffman. On va découvrir des applis qui peuvent réellement nous faciliter la vie au quotidien, la maison notamment. Et puis, on va retrouver aussi Perla Servan-Schreiber qui va nous faire saliver avec sa recette, on n'en finit pas, du marquis au chocolat.
À déguster en pleine conscience.
Je vais essayer. Hein. Beaucoup de plaisir à venir en tout cas. Alors rendez-vous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission matinale qui fait du bien à notre quotidien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et on passe à présent aux astuces bienveillantes de nos bienfaitrices du jour. Perla Servan-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Oh là là, un dessert majestueux au menu aujourd'hui avec vous, c'est bien ça?
Ouais.
C'est qui?
Une
c'est quoi?
Folie.
Une folie?
Je vous le dis.
Allez.
Une folie. Plus simple, c'est impossible. Plus addictif, vous aurez du mal. Et en plus, il se prépare la veille. Zéro stress.
C'est pas de la cuisine qu'elle devrait faire, c'est de la pub. Hein. Elle nous vend
ça, mais à merveille.
Avec le slogan zéro stress. Merci Perla, on vous retrouve tout à l'heure pour évidemment cette recette délicieuse. Mais avant ça, c'est Sophie Braffman qui va passer derrière le micro. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, quelles sont les applis du jour?
Alors, je vais vous parler d'applis qui vont alléger votre quotidien. Et je suis sûre qu'en tant que femme, que maman, ça va vous faire beaucoup de bien. Si je vous parle de charge mentale.
Ça nous parle.
Je sens un hola, hein, quand
ça
même,
parle,
hein, collectif. Ouais. Et souvent, c'est vrai que c'est un peu l'apanage des femmes, l'administratif, l'intendance, la comptabilité, les courses à faire, les sorties d'école à organiser.
Les vaccins du petit dernier.
Enfin, oh, bon. Voilà, on n'arrête pas d'énumérer. C'est fatigant.
Bon, mais ça tombe bien parce qu'il me semble que vous avez une appli qui va nous faciliter la vie et en direct, en direct du boulot. Hein.
Alors, justement, du boulot. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, c'est simple comme bonjour. L'appli s'appelle Fidencio. C'est une application pour simplifier le quotidien des employés dans les entreprises, les femmes et les hommes, bien sûr. Mais si aussi vous souhaitez tester, surtout, n'hésitez pas. Alors, cette application va vous permettre sur votre lieu de travail 25 services. Donc, par exemple, pressing, laver son véhicule, réparer ses roues de vélo quand on a crevé en allant au boulot le matin, se faire livrer un panier de fruits et légumes bio Perla, oui, totalement bio. Eh bien, tout ça sur son lieu de travail. Alors, bon, j'ai posé la question à son fondateur, Johan Mella, pourquoi sur le lieu de travail ? Et il nous l'explique.
L'équilibre vie privée-vie pro, c'est une des composantes importantes de la qualité de vie au travail. Les collaborateurs consacrent jusqu'à une heure par jour à régler leurs petits problèmes du quotidien au boulot. Et l'idée pour nous, c'est de dire aux entreprises de ne pas les blâmer pour ça, mais plutôt de les accompagner pour que ce temps-là soit le plus petit possible.
Fini les moments volés de pause déjeuner où on est en train de solutionner son administratif. Je pense que ça nous est toutes arrivé, vous aussi certainement. Voilà, maintenant, on pourra prendre une véritable pause amplement méritée. Et si vous regardez sur des sites de vacances, eh bien, ça sera uniquement pour votre plaisir.
Et dites-moi, ça existe dans toute la France, ça ?
Alors, c'est présent dans 7 grandes villes en France. L'application continue bien sûr de se développer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est présente dans des entreprises de grande taille, comme des toutes petites, alors de 40 à 7000 collaborateurs. On a déjà Total, LinkedIn, Nestlé qui ont souscrit à cette application, mais aussi des petites agences de communication. En gros, en fait, c'est une conciergerie digitale. Vous avez des casiers connectés qui vont permettre le dépôt et le retrait de commandes de manière autonome. Et bien sûr, pour laver sa voiture, vous l'aurez compris.
J'ai pas de voiture, mais bon.
Voilà. Et ben là, Mélanie, typiquement, ne passe pas par le casier. Et Johan vous dit comment ça se passe.
Si par exemple, vous voulez faire laver votre véhicule qui est stationné dans le parking de votre entreprise, vous avez simplement à lancer la commande avec votre application, vous allez au casier, vous déposez votre clé de voiture et dans le casier, le prestataire est automatiquement prévenu, il est autonome pour les récupérer, traiter votre véhicule et vous les redéposer. Comme ça, si vous êtes en réunion, il ne vous dérange même pas pour vous restituer vos clés.
C'est génial.
Alors, c'est hyper pratique, c'est génial. Vous pouvez même traiter une demande très urgente. Il l'a déjà vu, par exemple, une tache de vin sur un costume la veille d'un mariage. Mmh. Alors ça marche très bien.
Et c'est le patron qui paye ?
Et c'est le... Alors non, c'est pas le patron qui paye.
Très bonne question,
Perla. Très bonne question, Perla. Ça revient forcément moins cher que quand on le fait entre particuliers, puisque l'entreprise va prendre en charge, en fait, une partie. Alors, l'idée, c'est d'avoir des services moins chers donc, pour les collaborateurs, puisque l'entreprise, elle paye l'abonnement et donc ça finance en partie ses réductions. Donc, l'application s'appelle Fidencio, F-I-D-E-N-S-I-O. Oh, et voilà, vraiment, ça vaut le coup.
Non, mais c'est une super initiative. Mais
on va pas les patrons, non, pour qu'ils prennent ça.
Bah, franchement,
si on en parlait là-haut.
C'est vrai qu'on n'a pas ça, Europe 1. Et si on ne travaille pas dans l'une de ces grandes entreprises et qu'on souhaite tout de même un petit coup de pouce chez soi, c'est possible, ça ?
Alors, bien sûr, il y a plusieurs applications d'ores et déjà qui permettent ça, mais j'en ai retenu une. Elle s'appelle WeCasa.
Je sais, je connais.
Vous la connaissez,
c'est quoi ? C'est trop bien. Je sais tout le temps.
Ah, ben voilà. Donc, vous voyez à quoi ça
correspond. Elle va nous expliquer, vous allez
voir. Donc, c'est WECASA et ça va transformer votre maison, mais vous aussi. Alors, par exemple, vous avez besoin d'une aide ménagère. Bon, alors, il y a différentes prestations qui sont proposées. C'est très intéressant. Un grand nettoyage, un classique, un ménage de printemps ou entre deux locations, voire uniquement du repassage. Donc, vous avez plein de formules. On va vous mettre en relation donc, avec une personne qui va venir nettoyer votre maison. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis juin 2022, on peut déduire directement les frais. Donc, vous n'avez plus à avancer la trésorerie. Vous avez les 50%
de réduction d'impôt. C'est directement. Donc, ça vous coûte, je sais pas, 3 heures, 30 euros par
session. Bien. Vous n'avez pas à avancer, donc il n'y a pas de problème de trésor. Et d'ailleurs, depuis, WeCasa a enregistré une hausse de 63% de nouveaux clients. Bah forcément, depuis que cette loi est passée, ça favorise tout pour tout le monde. Alors, c'est 1000 sessions de ménage organisées dans toute la France par jour.
Mais ils ne font pas que ça.
Et ils ne font pas que ça. Alors, il y a des services de nounou, de babysitting. Bon, ça, c'est du plus classique. Mais aussi pour prendre soin de vous, de votre bien-être ou de votre coupe de cheveux.
Un petit massage.
Et voilà, exactement. Par là,
vous pouvez décider l'heure d'avant, je vous jure. C'est impressionnant.
Ouais, à la dernière, ils sont bien les massages, vous les avez testés ?
J'en ai testé plusieurs, je veux dire. À la maison, c'est pratique.
Ça doit dépendre.
Je me dis, il me reste 2 heures avant d'aller chercher la petite, là. Oh, allez, et
vous
avant.
Faites régulièrement ça ?
Génial. Ça m'est arrivé 2-3 fois pour les massages.
Génial. Génial. Vous voyez, et il n'y a pas que ma sœur, attention.
Il y a prof de sport ?
Il y a pose de fossiles. Pourquoi pas tester manucure. Ouais. Voilà, ça c'est super sympa.
Il y a le sport ou pas ? Il y a les coachs ou pas ?
Non, il y a coach de sport, je n'ai pas vu, mais peut-être qu'ils vont l'ajouter. En tout cas, j'ai vu, il y a coiffeur. Bon, coiffeur, on entretient un lien un peu particulier. Moi, le coiffeur, je n'irai pas forcément sur une appli, mais enfin, ça c'est personnel. Esthéticienne, voilà, donc vous pouvez vraiment faire différentes choses, des soins, et ce qui est très pratique, c'est surtout que ça va être chez vous. Et comme vous dites, vous pouvez soit l'anticiper et le réserver la veille, soit le faire 10 minutes avant, donc c'est quand même
c'est super.
Voilà, et vous avez plein de profils qui vous sont proposés. Moi, je me dis qu'avant les fêtes de fin d'année...
Ouais, c'est un bon plan. Merci.
Bah, bon cadeau, on doit pouvoir se faire un cadeau.
Ah oui, on peut faire des bons cadeaux, donc ça c'est parfait. C'est
Merci Sophie.
Une bonne idée à glisser
plus
sous sapin.
Possible d'être moche.
Non, et plus possible d'être molle non plus. Merci Sophie pour toutes ces infos très utiles. Allez, il est temps d'enfiler le tablier et de rejoindre Perla Savant-Schreiber en cuisine.
Alors, oui, Jean, vous allez enfiler un tablier, vous.
Non,
en
mais spécial. Perla va enfiler le tablier et moi, je vais l'aider à le nouer derrière dans son dos.
C'est voilà, vrai, comme ça. Que vous êtes
formidable. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, un marquis au chocolat, apparemment, ça fait sensation à chaque fois. fois que vous le faites. C'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission.
Ah oui, on devient dingue. On devient dingue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce marquis au chocolat? Alors, évidemment, on a du chocolat quand même. Mm-hmm. D'accord? On a 200 grammes de chocolat. Alors, ça, c'est pour 8 à 10 personnes, hein, parce que c'est Noël. Hein. Mm. Mais à 60% de cacao maximum.
C'est pas énorme. Hein.
Ah, pas plus. Hein.
Pas plus. 100 grammes de beurre ultra fin. Mmh. 50 g de très bon cacao en poudre, 2 œufs tout bio, hein. Mmh. 10 spéculoos, ça n'existe pas bio je crois, 10 spéculoos coupés en petits morceaux comme ça avec votre main, et 70 g de meringue, vous écrasez la meringue comme ça grossièrement, vous voyez, dans, entre vos doigts et la paume de la main.
On n'est pas obligé de faire la meringue. Hein.
Ah, ah, obligé,
l'acheter,
non.
Mais la boulangerie, ils en font des très bonnes.
Il y en a plein dans les boulangeries. Mmh. Et puis, moi j'avoue que je mets une petite cuillerée de café pour diluer mon chocolat. Okay. Mais ce n'est pas obligé, hein, d'accord?
Du café en poudre ou vous prenez du café déjà?
Alors, s'il vous reste une petite gorgée du café du matin, allez hop, on le là. Sinon, vous prenez un peu de décaféiné, d'un truc décaféiné. Voilà. Et puis c'est tout. Et hop, avec le chocolat et le beurre et en avant. Alors là, vous prenez votre casserole. Alors, prenez une casserole assez grande parce que c'est là-dedans que tout va se passer.
Ah oui, tout
c'est
dans la casserole.
Là que vous allez ajouter les meringues et tout le bazar. Donc, petite gorgée de café dans la casserole. On fait fondre à feu doux.
Okay. Le chocolat?
Le chocolat n'aime pas bouillir. C'est comme le café. D'accord?
Donc, on met le chocolat, café.
Chocolat, le café et on touille.
Le beurre aussi, non?
Oui, le beurre, pardon. Et le beurre. Elle l'a déjà fait, hein?
Elle cuisine avec des gâteaux.
Alors, ça peut réussir.
À feu doux.
On touille à feu doux, exactement. Quand c'est bien fondu, on enlève du feu et on bat les deux œufs comme ça à la fourchette. Ça, vous savez, Julia.
Bah, évidemment. Bon, okay, j'ai fait ça toute ma vie.
On rajoute avec le chocolat et tout le reste. Et hop, là, il faut de l'huile de coude, hein, comme on dit
en cuisine. Vous savez, ça se trouve, l'huile de coude, dans le rayon.
L'huile de coude, excusez-moi, en vrai, l'huile de coude, c'est ce rayon pneumatique, non?
C'est ça, exactement. Alors, je répète, parce que quand même, il ne faut quand même pas que... Il ne faut pas croire, Julia, à tous les coups, hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut touiller fort, avec énergie, voilà. D'accord? Bon, alors, on a touillé les œufs. Et qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? On jette les spéculoos qui sont déjà cassés, les meringues. Là, par contre, délicatement.
Aérien.
Là, il n'y a plus d'huile de coude. On aère, on mélange, et hop, on prend une barquette alu de 24 cm ou un moule à cake de 24 cm, mais le moule à cake, il faut le tapisser de film alimentaire. Ah. Ça, vous n'allez pas aimer du
Pourquoi
tout.
Pourquoi je n'aimerais pas
je
ça
Je vous le dis, parce que quand vous coupez un film alimentaire, il se colle aux mains.
Non, parce que moi, j'ai acheté... J'en ai un super de film alimentaire qui se coupe comme ça, là. Enfin, il y a une petite réglette qui permet de couper le film alimentaire.
Oui, mais une fois que vous prenez la feuille, elle s'en va dans tous les sens.
Un petit peu.
Avec l'électricité statique.
Ouais. Voilà. Bon, d'accord.
Donc ça, c'est juste pas pour vous, mais non, c'est pas grave. Ouais. Voilà.
Parce que moi, j'ai quelqu'un qui vous aime.
On a un moule, on verse tout dedans, on couvre et hop, on glisse dans le congélateur une nuit.
Ah,
on
ça
le met
se
bien
pas.
À plat. Ah oui, congélateur.
Il n'y a pas de cuisson,
nuit.
Julia, vous avez remarqué.
Zéro, il n'y a rien.
C'est vrai qu'elle n'avait jamais dit là, d'allumer le four ou quoi comme elle fait d'habitude.
Rien,
elle n'a pas dit préchauffer tout ça.
Non, mais rien,
d'accord.
Rien.
Une nuit de frigo. Congélateur, attention, pas frigo.
Non, oui. Congélateur la nuit.
Congélateur.
À feu doux, à feu doux. Mais le lendemain, une fois que la salade. Ah non, pardon. Une fois qu'on a préparé le dîner.
On le sort.
Une fois qu'on a préparé le dîner de Noël, on sort. Bien avant, au moins une demi-heure avant de la consommer, parce que sinon vous ne pourrez même pas la couper. Vous la démoulez, c'est un jeu d'enfant, dans un plat. Mm-hmm. On saupoudre de sucre glace pour faire joli. Et on découpe 8 à 10 tranches et hop, on passe à table.
C'est génial, c'est fastoche ça. Hein. Je peux vous dire que c'est délicieux. Moi, j'ai eu la chance de goûter ce gâteau de perla.
Elle a eu la chance. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait donc, comme hack?
Bah oui, c'est quoi le hack du jour? L'astuce de perla.
Alors, c'est qu'en pâtisserie, jamais vous n'utilisez un chocolat noir au-delà de 55 à 60% de concentration de cacao.
Mais pourquoi donc?
Parce que les très puissants, 70-75%, lorsque vous les chauffez, même à feu doudou, d'accord?
Doudou?
Ils se rampent, ils vous font une pâte et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Ils se coagulent comme ça. Voilà.
Bon, d'accord.
Alors, pour le croquer, évidemment, allez-y, c'est 70% minimum. mais pour le travailler entre 55 et 60. 60.
D'accord, bah, très bien, bon. Ça c'est un. Et la prochaine fois, je crois que vous venez mardi par là. Quelle sera la recette de mardi alors?
Ah bah alors, on va continuer dans le délire. On va faire une petite salade de rates. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petites pommes de terre délicieuses avec un goût de noisette. Et ces petites rates tièdes, on va les noyer sous des lamelles de truffes.
Oh, on dirait qu'elle nous raconte un conte de Noël.
Mais ça met l'eau à la bouche là, franchement.
Oh, mais merci Perla pour tous vos précieux conseils. Je rappelle qu'on retrouve l'intégralité de votre recette sur le site europe1.fr. Et bien voilà, il est presque midi et notre émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr lundi à la même heure, dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour?
On va mettre à l'honneur la lecture lundi. On entend souvent dire que les enfants ne lisent plus, mais d'ailleurs avec tous ces écrans qui nous ont envahis ces dernières années, est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, les adultes, perdu le goût de la lecture? Si c'est le cas, pas d'inquiétude surtout, car on a de quoi vous remettre en selle de nombreuses astuces pour vous donner l'envie de dévorer des pages à nouveau et surtout initier les plus jeunes à ce plaisir dès le berceau.
Et pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous Romain Desarbres.